étudiante européenne, vous êtes chargée de recherche au CRISP. Alors moi j'ai tout lu sur Fratelli d'Italia, formation ultra-conservatrice, droite radicale, droite souverainiste. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme terme? Est-ce que c'est un parti d'extrême droite?
Je dirais effectivement, tout simplement, qu'on peut le qualifier de parti d'extrême droite. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il est similaire au MSI, ce mouvement social italien, le parti d'origine fasciste dont vous venez de parler? Je pense qu'il y a quand même énormément d'évolutions depuis lors, même si l'héritage n'est pas balayé d'un revers de la main par Giorgia Meloni. Par contre, c'est effectivement un parti d'extrême droite, c'est-à-dire qui fait tenir son programme principalement sur des questions migratoires, sécuritaires, qui considère d'ailleurs que l'insécurité en Italie est due à l'immigration, notamment illégale, et on sait que l'immigration illégale est un élément important du programme et des discours de Giorgia Meloni et de Fratelli d'Italia durant cette campagne, mais pas seulement, et un parti qui effectivement remet en cause, ou en tout cas constitue un défi pour les fondements libéraux, je dirais, de la démocratie en Italie.
Est-ce que c'est un parti, parce qu'il y a, une vidéo qui a beaucoup tourné, réalisée par France Télévisions, qui montre Giorgia Meloni jeune, qui milite dans une formation qui s'inspire de Mussolini et du fascisme italien. Est-ce que le fascisme italien est toujours à la base de cette formation?
Alors je ne dirais plus tout à fait. Alors effectivement, Giorgia Meloni n'a pas nié son engagement au sein de l'Alliance Nationale, comme on l'appelait, d'origine effectivement fasciste également, qui a participé au pouvoir. Et Giorgia Meloni, même si aujourd'hui elle se présente un petit peu comme outsider dans cette campagne, en montrant que contrairement à Matteo Salvini, à la Lega, elle n'a pas participé au pouvoir, n'a pas soutenu le gouvernement de M. Draghi. Par contre, elle a effectivement déjà été ministre dans un gouvernement de Silvio Berlusconi il y a quelques années. Donc c'est un élément bien sûr à prendre en compte. Aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est une formation fasciste à proprement parler, notamment parce que le fascisme est animé par une certaine culture révolutionnaire, plutôt violente, je dirais même, à travers ses actions. Et en Italie, je pense qu'une formation comme Casa Pound, par exemple, qui n'est plus un parti politique à proprement parler aujourd'hui, est davantage dans cette perspective, à travers des actions violentes. Un certain nombre de procès, d'ailleurs, émaillent la vie de cette organisation, bien davantage que Fratelli d'Italia aujourd'hui, qui est une formation, certes, d'extrême droite, mais populiste, qu'on peut assimiler davantage, aujourd'hui en tout cas, à la formation Madame Le Pen, à la formation de M. Van Grieken, par exemple, en Belgique également.
On va y venir, hein, Belgique, de Benito Mussolini aujourd'hui en Italie, et ça peut aussi expliquer le succès de Giorgia Meloni?
Alors, il y en a effectivement, ça contribue en partie à expliquer ce succès, notamment parce que dans cette idéologie fasciste, qui certes est une idéologie d'extrême droite, mais bien spécifique, il y a aussi cette nécessité de restaurer un État fort, au détriment éventuellement du Parlement, et cette nécessité de restaurer un État fort peut répondre à certaines aspirations, et je dirais même à certaines craintes, notamment en matière socio-économique, comme cela vient d'être amené. C'est un thème de campagne particulièrement important, c'est le pouvoir d'achat, finalement la capacité à pouvoir se loger, se nourrir, se chauffer également, même si on est en Italie, sans devoir mettre dans la même balance ces différents éléments.
Oui, je veux rapprocher, vous l'avez déjà évoqué, par exemple, du Rassemblement national et du virage que lui a imprimé Marine Le Pen. C'est à peu près la même tendance, ces deux formations-là?
Alors, il y a certainement des différences, des nuances entre ces formations. Et d'ailleurs, en Italie, la Lega, qui est un autre parti d'extrême droite dirigé par Matteo Salvini, est beaucoup plus proche de celui de la formation de Madame Le Pen ou de Tom Van Grieken en Belgique, typiquement. Néanmoins, ça reste l'un et l'autre des partis d'extrême droite qui, à travers le temps, ont essayé de lisser un peu leur image, de se normaliser, parfois se dédiaboliser, pour essayer de gagner en légitimité aux yeux des électeurs, des électrices, et de tenter d'arriver au pouvoir. Et on voit aujourd'hui qu'effectivement, elle est aux portes du pouvoir. Le pari semble effectivement réussi, en tout cas en un tenté aujourd'hui. Ça se rapproche un petit peu de la situation que Marine Le Pen a connue en France il y a quelques mois. Alors, on compte plus les cas exceptionnel, les cas où il n'y a pas d'extrême droite qui se développe, et en Belgique on peut penser à la Belgique francophone certainement, où l'extrême droite est tout à fait marginale aujourd'hui.
On est une exception en Europe.
Pour le moment, on est une exception effectivement, avec Malte, avec l'Islande, l'Irlande peut-être, mais c'est pas mal tout, il y a pas mal de pays où l'extrême droite, même lorsqu'elle n'avait pas l'habitude de pouvoir s'y développe particulièrement bien. Pensons à l'Allemagne, pensons à l'Espagne également, où l'extrême droite était absente pendant plusieurs décennies, et où un laps de temps extrêmement record a réussi à s'imposer au sein du paysage partisan national et régional d'ailleurs derrière également. Ça participe toujours de cette stratégie de normalisation que j'évoquais il y a quelques instants.
Mais ça veut dire qu'après la Suède, après l'Italie sans doute ce dimanche, il y aura d'autres extrêmes droites ailleurs en Europe qui vont monter au pouvoir?
Alors je n'ai pas de boule de cristal, mais effectivement c'est une perspective qu'on ne peut pas écarter de la main, et le cas suédois d'ailleurs est particulièrement illustratif. C'est un cas, contrairement à l'Italie où l'extrême droite a déjà en réalité participé au pouvoir, que ce soit l'Alliance Nationale de laquelle est issue Fratelli d'Italia ou la Lega. En Suède, il y avait un cordon sanitaire jusqu'à présent extrêmement fort qui a maintenu dans les rangs de l'opposition, en tout cas depuis qu'elle est représentée au Parlement, depuis 2010, la formation des démocrates de Suède, permettant de maintenir ce front à son égard. On est dans une situation assez particulière à partir du moment où on envisage même de l'inclure en soutien ou dans un gouvernement.
Mais est-ce que la victoire de l'extrême droite dimanche en Italie, si elle se confirme, peut être un exemple, peut appuyer des victoires d'extrême droite ailleurs dans d'autres pays européens?
Certains vont s'en inspirer certainement. On a d'ailleurs déjà vu Tom Van Grieken reprendre l'expression « je suis un homme, je suis flamand, je suis un travailleur, un père », etc. Ce qui fait écho au discours classique qu'on entend de Giorgia Meloni certainement. Mais également, parmi les électrices et les électeurs, ils pourraient se dire « regardons en Italie, ça se passe pas si mal qu'on a voulu nous le vendre », par exemple. C'est un discours qu'on pourrait effectivement entendre, un petit peu comme on l'a entendu dans la foulée du Brexit, où il y a eu des appels pour le Frexit, pour l'Italexit,
même si c'était dans le programme de Giorgia Meloni. Mais
voilà, oui, c'est vrai qu'il y a eu des évolutions par rapport à ça. D'ailleurs.
Comment vous l'expliquez alors, ce succès de l'extrême droite pour l'instant en Europe, Benjamin Villard?
Il y a plusieurs éléments. Il y a certainement une difficulté, plus qu'une difficulté, une véritable crise socio-économique qui se répand à travers l'Europe, particulièrement cette année avec la crise énergétique qui est intrinsèquement liée, mais ce n'est pas le seul élément. Il y a un élément très important également et qui perdure, qui s'amplifie à travers les années, c'est une crise démocratique. Le fait que les citoyennes, les citoyens perdent de plus en plus la confiance qu'ils accordent dans leurs élus, mais également dans le fonctionnement même de la démocratie. Et on voit généralement que les électrices, les électeurs des partis d'extrême droite sont celles et ceux qui disposent du degré le moins important de confiance à l'égard de la démocratie. Donc c'est un élément également très important à prendre en compte. Et puis des éléments davantage contextuels liés à l'actualité politique, migratoire tantôt, sécuritaire comme en Suède durant cette campagne également, dans d'autres cas également, qui vont permettre à l'extrême droite d'asseoir son discours sur un contexte qui lui est particulièrement favorable, il faut le dire.
Voilà, contexte social et appréhension, Sandro, et bien parce que le scénario d'une extrême droite, on vient l'expliquer au pouvoir à Rome, c'est un cauchemar pour les partisans de l'Union européenne.
Ah oui, si les sondages ne se trompent pas, l'Italie, troisième puissance économique de l'Union européenne, vous le disiez, va prendre un virage à droite toute. À Rome, le futur gouvernement, une alliance des droites pourrait être dirigée par Giorgia Meloni, la chef de Fratelli d'Italia, un parti post-fasciste, nationaliste, conservateur et eurosceptique.
Bon, eurosceptique, jusqu'à quel point, Sandro?
Alors, Giorgia Meloni a longtemps défendu une sortie de l'Italie de l'Union européenne et de la zone euro. Plus souvent qu'à son tour, elle s'en est prise à l'Europe pour avoir abandonné l'Italie pendant la crise migratoire de 2015 ou pour l'austérité imposée à son pays. Mais aujourd'hui, ces critiques sont moins piquantes, ces messages plus constructifs. Pourquoi? Sans doute pour des raisons stratégiques. Maintenant qu'elle a en vue le poste de président du Conseil italien, elle cherche à rassurer les élites européennes, mais surtout dans l'immédiat, elle a besoin de l'Europe, car l'Italie bénéficie largement du plan de relance européen post-Covid. Pour Rome, c'est une manne extraordinaire de 220 milliards d'euros.
Et quels sont ces signes positifs alors envoyés par la dirigeante d'extrême droite?
J'ai feuilleté son programme électoral et il n'y a plus aucune trace d'un Italexit, la version italienne du Brexit. À plusieurs égards, elle suit même les traces de l'actuel Premier ministre italien, le pro-européen Mario Draghi. Regardez, Giorgia Meloni prône la prudence budgétaire. Autrement dit, pas question d'augmenter encore la gigantesque dette italienne, ce qui plaira à l'Allemagne. Elle veut développer la politique européenne de défense, du pain béni pour la France. Elle veut aussi assouplir les règles budgétaires européennes pour stimuler la croissance et l'emploi, de quoi séduire les autres pays du sud de l'Europe. Ajoutez à cela qu'elle est atlantiste, qu'elle soutient l'Ukraine et appuie les sanctions contre la Russie, tout le contraire de son partenaire de coalition, Matteo Salvini, le leader de la Lega, l'autre grande formation d'extrême droite, un Matteo Salvini qui, lui, maintient une posture plus ouvertement eurosceptique.
Courbe rentrante, si je vous comprends bien, oui. de Giorgia Meloni par rapport en tout cas à l'Union européenne. À vous entendre, Sandro, on dirait que l'Europe a une sorte de pouvoir magique, la capacité de modérer les extrêmes.
Peut-être. La puissance économique, la solidarité européenne ont une force d'attraction indéniable. Oui, ça crée une interdépendance entre les 27. Et si on exclut l'épisode du Brexit, on voit que l'Union européenne attire à elle quasi toutes les forces politiques, même les plus eurosceptiques, qui aujourd'hui appellent à quitter l'Union ou la zone euro. Personne, même dans les rangs de l'extrême droite. Alors, de là à dire que Giorgia Meloni et ses Fratelli d'Italia partagent désormais toutes les valeurs européennes, je n'irai pas jusque-là. D'ailleurs, en parlant de solidarité, la semaine dernière, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, disait qu'elle voulait que l'Europe gère les migrations avec dignité et respect, que l'accueil réservé aux réfugiés ukrainiens ne soit pas une exception. Ce n'est pas du tout la vision de Giorgia Meloni dans son programme politique où elle lie migration et criminalité. On peut lire qu'elle entend fermer les ports italiens en Méditerranée.
Il ne faut pas se tromper, hein. Sécurité et migration, ça reste les deux grands thèmes, les deux mamelles de l'extrême droite.
Oui, et on peut y ajouter la nation, la famille, les racines chrétiennes de l'Europe et donc un euroscepticisme marqué, un cocktail idéologique que l'on retrouve aussi bien dans l'Italie de Meloni et de Salvini que dans la Hongrie de Orban ou dans la Pologne de Kaczynski et peut-être un jour dans la France de Le Pen. Et la menace pour l'intégration européenne est peut-être là. Ces forces souverainistes ne cherchent plus à détruire l'Europe, mais à la changer de l'intérieur, en faire une Europe des patries ou des nations, ce qui veut dire, François, moins d'Europe.
Et donc une victoire, ce qui est probable, de Giorgia Meloni dimanche soir en Italie va compliquer encore un peu plus les discussions en 27 au sein de l'Union européenne.
La notion d'intégration européenne, de cohésion européenne.
Merci beaucoup. 9% de taux de chômage, moyenne européenne 6,6%. L'Italie qui a une dette colossale, plus de 2700 milliards d'euros, 150% du PIB, c'est le ratio le plus élevé de la zone euro derrière la Grèce. Et puis l'Italie, c'est aussi le Japon de l'Europe, le pays le plus vieux de l'Union européenne avec un âge médian de 47,6 ans et un taux de natalité en berne. Et c'est dans ce que Giorgia Meloni que ici en Belgique, on découvre depuis pas si longtemps que ça, hein, finalement. Est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle venue ?
Non, c'est pas une nouvelle venue, hein. C'est une Romaine de 45 ans, Giorgia Meloni, et ce n'est pas une nouveauté dans le paysage politique italien, puisqu'elle fait de la politique depuis qu'elle a 15 ans. À cet âge, elle entre dans les rangs du Front de la Jeunesse, les jeunes du mouvement social italien, le MSCI, parti né sur les cendres du fascisme et qui reprend les idées de Mussolini. Et d'ailleurs, il y a un reportage qui est en train de tourner sur les réseaux sociaux pour le moment de nos confrères de France Télévisions en 1996. Elle déclare sans problème que Mussolini avait été un bon politicien, que tout ce qu'il avait fait, il l'avait fait pour l'Italie, je cite bien entendu. Elle avait alors 19 ans, alors son discours a évolué, hein, tous nos discours ont évolué, le sien aussi. Elle a compris que si elle voulait arriver au pouvoir, eh bien elle devait s'éloigner de ses racines néofascistes, même si pour les nostalgiques de Mussolini aujourd'hui, elle porte encore l'héritage du Duce.
Oui, et pourtant, elle représente la nouveauté, celle qui n'a jamais gouverné. C'est en partie pour ça qu'elle est en tête dans les sondages aujourd'hui.
Oui, sans doute, c'est aussi en partie pour ça, alors qu'en réalité, elle est au Parlement depuis 2006. Elle a été ministre du gouvernement de Silvio Berlusconi de 2008 à 2011, la plus jeune ministre de la République italienne. Mais en 2013, elle a un coup de génie. Elle va refonder l'extrême droite et elle crée ce parti Fratelli d'Italia, qui va certes garder la flamme néofasciste, la flamme tricolore, mais qui va faire évoluer son discours comme une droite moderniste, ultra-conservatrice, souverainiste, ultra-nationaliste, xénophobe, avec, vous l'avez entendu, un peu d'euroscepticisme, mais elle profite clairement du vent du populisme qui tourne à ce moment-là en Italie. Et avec son fameux discours « Moi je suis Giorgia la Cattolica, mère de famille italienne que personne ne pourra changer », eh bien elle va faire passer ce parti de 4% de vote en 2018 à 25% d'intention de vote ce dimanche, et même plus, disent certains. Alors elle tente de gommer ses défauts extrémistes, c'est vrai, elle se déclare atlantiste, elle promet de respecter les traités, les équilibres budgétaires. Bref, on a deux Giorgia, la passionaria et Giorgia la présentable, pourrait-on dire.
Si elle gagne haut la main ce dimanche, Valérie, Giorgia Meloni pourrait prétendre à devenir la première femme à gouverner l'Italie.
Oui, et c'est ce qu'elle dit partout. Elle l'a dit à la télévision américaine, elle l'espère. Elle a un accord avec les deux autres partis de sa coalition, hein, Forza Italia de Berlusconi et la Lega de Salvini. Alors ce dernier ne sera certainement pas aussi complaisant, mais l'accord dit que le parti qui prend le plus de votes dimanche aura le droit de proposer le nom du Premier ministre. Bien sûr, c'est le président de la République en Italie qui a le dernier mot. Hein. Il faudra voir s'il va accepter. Mais si elle rafle 30% des voix, ce sera très compliqué pour Sergio Mattarella de lui refuser la tentative. Au moins de former un gouvernement. Gagner, c'est une chose, gouverner en est une autre, dit-on, surtout dans un pays où les attentes des citoyens sont aussi importantes. Alors Giorgia Meloni devra prouver à tous qu'elle a les qualités requises. Elle-même se dit prête, hein, c'est son slogan, pronti. Elle affirme que son modèle s'appelle Margaret Thatcher, mais son modèle est loin, son programme est loin de libéralisation à outrance comme celui de la Dame de Fer. Il rappelle plutôt les nationalisations du programme de Marine Le Pen. Alors Giorgia Meloni a réussi à gommer ce qui aurait pu lui empêcher l'accès au pouvoir dans un pays qui, on l'a aussi entendu, a trop de fragilité pour être réellement souverain, à voir dimanche si elle va y arriver.
Voilà les...
Bonjour à vous.
On l'a dit, hein, et on le dit depuis ce matin dans les sondages, c'est une coalition de droite, radicale, d'extrême droite qui est en tête depuis des jours et des semaines. Comment vous expliquez cette situation en Italie? C'est un vote anti-système, un vote populiste?
C'est en partie un vote anti-système qui aujourd'hui, les frais d'Italie prend un peu, c'est le seul parti qui était à la position du gouvernement Draghi. Donc c'est une position d'avantage pour le parti de Giorgia Meloni. C'est aussi dû au fait qu'il y a une division très claire dans le champ de la gauche, du centre-gauche. C'est-à-dire d'un côté, il y a une coalition de trois partis, de droite, d'extrême droite. De l'autre côté, il n'y a pas de coalition. Il y a le Parti démocrate avec ses alliés, mais ce sont des petits partis. Il y a le mouvement 5 étoiles et il y a les partis libéraux de centre. Mais c'est-à-dire c'est un désavantage très clair pour le champ qui n'est pas de droite.
Une coalition est désignée gagnante, mais est-elle réellement stable? Ou tout pourrait exploser, entre guillemets, dès dimanche soir, dès les résultats du scrutin?
C'est ça le gros problème de la coalition de Giorgia Meloni. Donc, il y a des tensions internes qu'on voit déjà dans la campagne électorale. Alors, ça va dépendre un peu, surtout entre la Ligue, Matteo Salvini, et Giorgia Meloni. Plusieurs dossiers, la guerre en Ukraine, la dette publique, le rapport avec l'Europe, c'est des tensions qui vont exploser, surtout si les résultats ne sont pas si nets. Alors si dimanche soir, on voit une victoire nette de la droite, avec une majorité à la Chambre et au Sénat, ben alors c'est clair que Giorgia Meloni va être la première ministre femme en Italie et il y aura un gouvernement de droite. Mais si la victoire n'est pas si nette et les derniers sondages, la campagne électorale des derniers deux semaines montrent un peu cette tendance, il y aura une instabilité accrue.
Ce qui inquiète l'Europe, c'est donc ce scénario avec une victoire nette de l'extrême droite qui, du coup, pourrait diriger un gouvernement en Italie. Mais l'extrême droite a déjà été au pouvoir récemment en Italie. Vous avez évoqué le cas de Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur, 2018-2019. Alors en quoi, ici, cette coalition-là pourrait provoquer véritablement des grands changements en Italie, aussi pour nous, Européens?
Je ne vois pas, sur des dossiers importants comme le rapport avec l'Europe, il y aura bien sûr des tensions, parce que Giorgia Meloni était un parti pour plusieurs années, un parti eurosceptique, clairement, avec des positions très proches des nationalistes polonaises, de Viktor Orban. Donc il y aura bien sûr des tensions entre l'Italie et l'Union européenne, et les partenaires de l'Union européenne. Mais sur plusieurs dossiers, je pense qu'il y aura quand même une continuité avec le gouvernement. Draghi, je pense notamment, dû aux contraintes qui existent pour la politique italienne, la dette publique, la nécessité de mettre en œuvre les mesures décidées au niveau européen pour la relance, pour la Next Generation EU, le positionnement face, par exemple, à la guerre en Ukraine. Donc là, il y aura des continuités. Dans d'autres dossiers, par contre, il y a probablement, mais des dossiers internes, il y a probablement des changements. Vous avez justement évoqué les libertés civiles, les droits civils, et alors notamment le problème de droit. à l'avortement, dans lequel Giorgia Meloni n'est pas si claire. Et donc on peut s'attendre à des tentatives de quand même de limiter ce genre de droit. Et je pense aussi à tout le dossier qui existe depuis des années en Italie sur l'euthanasie, sur le droit pour la communauté LGBTQ. Alors là, il n'y aura pas de progrès du tout.
Et sur la question migratoire, qui nourrit aussi d'ailleurs hein, cette coalition de droite, là aussi on pourrait à nouveau avoir un virage comme on a eu lors du précédent gouvernement, du gouvernement avec Salvini.
Oui, c'est évident, on parle de blocage naval, on parle de mesures très dures, mais là, alors déjà c'est différent par rapport au passé, parce que la question migratoire n'est pas au centre de la campagne électorale aujourd'hui, parce que ce sont d'autres choses, les questions économiques, le prix de l'essence, le prix du gaz, comme ailleurs en Europe, en Belgique par exemple. Et donc la question migratoire est mise un peu à côté, mais c'est clair que là aussi il y aura probablement des tentatives par Matteo Salvini, par les l'Italie au gouvernement de se montrer très 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 dur contre de faire une campagne assez populiste contre les migrants.
Alors vous suivez depuis plusieurs semaines l'évolution de cette campagne. Comment vous expliquez-vous le choix de l'électeur? On est face à un virage à gauche après un virage populiste, notamment avec le mouvement de 5 étoiles. C'est une espèce de balancier en Italie qui passe d'une instabilité à l'autre. Comment vous expliquez ce vote?
C'est un balancier, c'est justement l'instabilité qui touche un peu la politique, qui caractérise la politique italienne. Alors on voit justement, j'évoquais l'avantage de Giorgia Meloni du fait d'être le seul parti à l'opposition. Donc ça aide à tout le système. Hein. C'est le seul parti qui était contre le gouvernement Draghi. Il y a aussi un mouvement, je pense, dans les deux dernières semaines de campagne électorale, il y a un mouvement qui peut, j'ai évoqué l'incertitude, parce que il y a un mouvement qui nous fait penser que probablement la Ligue aura un résultat assez mauvais, surtout dans le Nord, dans l'électorat classique de la Ligue, donc les petits entrepreneurs du Nord, la classe moyenne du Nord. La Ligue, les derniers sondages montrent que la Ligue va avoir un mauvais résultat probablement. Et la montée assez étonnante du mouvement 5 étoiles au sud. Donc ces deux phénomènes qui doivent être un peu consolidés, mais on le verra dimanche soir.
Et quelle est la couleur, je me permets de vous interrompre juste Luca Tomoni, pour bien comprendre, quelle est la couleur de ce vote d'extrême droite? Est-ce que tous les Italiens qui votent là, qui sont prêts à voter pour cette coalition de droite, ont cette tendance fasciste, cette fascination pour l'Italie fasciste? Est-ce que, comme aussi on observe en Belgique, hein, vous observez...